À quel âge les jeunes deviennent-ils sexuellement actifs? Y a-t-il un âge idéal pour un premier rapport sexuel? Quelles conditions doivent être réunies pour que ces premiers rapports se déroulent bien? Voilà quelques-unes des nombreuses questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos invités. Ils sont artistes, étudiants, élèves, membres de la société civile, mais surtout jeunes, et ce sujet les intéresse particulièrement. Ils sont venus parler de leur expérience et partager leur point de vue. Bonjour, chers auditeurs. Vous êtes dans votre émission « Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes ». Aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité des jeunes et plus précisément des premiers rapports sexuels. Merci à nos invités d'être là. Nous sommes à Bamako et ici, comme un peu partout au Mali, ces questions de sexualité interpellent les jeunes. Avant de poursuivre le débat, je vais demander à chacun de se présenter. Je commence par vous, messieurs.
Je m'appelle Brima Balo, je travaille pour AMSOPT. L'AMSOPT, c'est l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles.
Merci. Et vous, madame?
Je m'appelle Aïssa Traoré, jeune activiste.
Et vous?
Moi, c'est Fousseni Diop, jeune de AGICAD.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette importante étape de la vie que sont les premiers rapports sexuels demeure un mystère pour beaucoup de jeunes, en particulier la première fois. Et il y a toujours une première fois. Nous allons à présent écouter le témoignage de cette jeune fille Oumu qui, sous le couvert de l'anonymat, a voulu partager avec nous son histoire. Je vous propose de l'écouter.
Quand j'avais 12 ans, la mère d'un monsieur de mon quartier, que je ne connaissais pas, est venue demander ma main à mes grands frères. Le lien a été accepté. Ensuite, un jeune homme est venu me faire la cour et c'était la première fois que quelqu'un faisait attention à moi. Mais il m'a plu. J'ai même eu le coup de foudre. Nous parlions et rions bien ensemble. J'étais favorable à ce mariage et je lui ai même demandé de revenir. Alors il est revenu. Il était accompagné de son grand frère. Étonnant, il m'a alors expliqué que le véritable prétendant n'était pas lui, mais son grand frère. Qu'il m'avait fait la cour à sa place. J'étais tellement surpris que j'ai accepté la situation. Mon prétendant était beaucoup moins charmant, mais ce n'était pas le problème. Il était timide, ne parlait pas beaucoup. À chaque fois qu'il me voyait, il me donnait de l'argent. Et puis surtout, il me promettait avec lui, je pourrais ouvrir une boutique, qu'il m'achèterait tout le matériel pour faire du commerce. J'ai commencé à sortir avec lui. Un de ses amis avait mis sa chambre à sa disposition. Où nous nous rencontrions seuls. Il me faisait quelques attouchements, me caressait les seins. Je savais que pour coucher ensemble, l'homme et la femme étaient nus. Mais c'était tout. À la troisième rencontre dans la chambre de son ami, mon prétendant m'a demandé de coucher avec lui. Il m'a dit que c'était la condition pour qu'il tienne toutes ses promesses. J'ai cédé, c'était très douloureux, je sanglotais. J'ai tellement saigné qu'il a pris peur et qu'il est allé chercher son ami. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais si mal que ma mère s'est inquiétée. Mais comme mon prétendant m'avait demandé de garder le secret, je ne me suis pas confiée. Et moi après, j'étais enceinte. Les copines me conseillaient d'avorter pour rester à l'aise. Certaines l'avaient déjà fait et elles étaient prêtes à m'aider, à me donner des tisanes. Mais ma mère s'y est complètement opposée. Finalement, je me suis mariée avec mon copain. Et au bout de 15 jours, je me suis installée chez lui. Lui était ravi de la nouvelle de ma grossesse. C'était enceinte de mon second enfant que j'ai entendu parler de contraception, chose que je ne savais pas. J'ai bien pensé à prendre des comprimés, mais il faut que ce soit régulier. Et si un jour, je n'ai pas d'argent pour payer ça, oh, ça n'aura servi à rien. De toute façon, j'ai perdu tout espoir d'avoir un jour ma boutique. Je sais que mon mari ne tiendra pas ses promesses. Avec les enfants en charge, je n'aurai jamais le moyen.
Merci à elle d'avoir bien voulu en parler. À travers cette histoire, à travers vos histoires, nous savons que le problème est complexe. La culture, l'éducation, les traditions et même la religion jouent un rôle important. Et il est difficile de répondre à cette question. Dans quelles conditions avoir son premier rapport sexuel? Notre reporter a fait le tour de la ville pour poser cette question à nos compatriotes. Écoutons à travers ce micro-trottoir la réponse des hommes et des femmes à rencontrer.
Selon vous, quelles sont les meilleures conditions pour avoir des rapports sexuels pour la première fois?
Pour moi, la première condition est que vous ayez l'idée, le désir, vous ayez la même envie pour faire le rapport.
Les meilleures conditions pour avoir des rapports sexuels pour la première fois, c'est le fait de se marier.
Pour moi, pour la première fois de faire des rapports sexuels, les conditions sont les suivantes. Il faut être mûr et jeune, c'est des responsabilités à prendre. Il faut être responsable de tes actes et ce sont des actes qui vont vous suivre toute une vie. Et puis, il faut choisir les personnes avec qui vous allez faire cet acte-là. Donc, la première fois pour faire un rapport sexuel, c'est très important. Il faut choisir des gens qui en vaut la peine parce qu'après l'acte-là, il peut y avoir des conséquences. Et si ce sont des gens qui ne sont pas responsables des trucs comme ça, ça va devenir des choses où il y aura des problèmes après.
Bon, selon moi, pour votre première fois, les meilleures conditions sont que vous devez être prêt psychologiquement et puis être amoureux de la personne avec laquelle tu veux faire ta première fois.
Selon moi, les meilleures conditions ne sont que avoir l'envie, le goût. Il faut que aussi ces envies et ces goûts-là soient réciproques envers les deux partenaires pour bien mener les rapports sexuels.
Alors, avant de recueillir vos réactions, j'aimerais vous donner quelques informations sur l'âge moyen des premiers rapports sexuels au Mali. Selon l'Institut Guttmacher, 59% des filles de 15 à 19 ans ont déjà eu des rapports sexuels. 83% des filles de 15 à 19 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels sont actuellement en union selon la même source. Cela veut dire que la sexualité, en tout cas déclarée, existe principalement dans le cadre du mariage. Avec ces chiffres, nous constatons que la vie sexuelle des jeunes commence assez tôt. Je vous propose maintenant de réagir, chers invités, à ces micro-trottoirs et à ces chiffres. Alors, M. Balo, d'après vous, quelles conditions doivent être réunies pour que ces premiers rapports se déroulent bien?
Pour que ces premiers rapports puissent se dérouler bien, il faut d'abord atteindre la majorité. Avoir 18 ans bien révolu, en ce moment, la personne est mature et est responsable de ses actes. Et bien évidemment aussi être informé sur la sexualité, savoir là où l'on met les pieds. Donc, il faut avoir l'information nécessaire pour pouvoir mieux se comporter.
Et vous, M. Diop?
À la question « Quelles sont les conditions ?», effectivement, je vais aussi rejoindre Balo. Il l'a dit, il faut avoir l'âge. L'âge aussi est très important. Parce que cela définit que lorsque la jeune fille ou le jeune homme atteint la majorité, ça veut dire que tous ses organes ont atteint le développement nécessaire. Et au-delà de l'âge, comme il l'a dit, le jeune aussi doit être suffisamment informé sur la question. Parce que comme je l'ai dit, les premières expériences sexuelles sont très capitales dans la vie future du jeune. Et lorsque cette première expérience ne se passe pas bien, il peut y avoir beaucoup d'autres problèmes. Donc il doit avoir l'âge, c'est-à-dire que ses organes génitaux soient suffisamment mûrs pour faire l'acte, et aussi avoir les informations nécessaires sur la sexualité pour que la première expérience se passe bien.
Aïssa, vous venez d'écouter Balo et Fousseni. Partagez-vous ces deux avis?
Oui, je les partage. Mais moi, je veux vraiment insister sur le fait que les jeunes doivent être prêts psychologiquement. Parce que d'abord, il faut accepter la chose et avoir beaucoup d'informations sur les organes génitaux. Et ici, parce que maintenant, on se rend compte que les jeunes sont sexuellement précoces. Ils commencent très tôt. Et le fait de commencer très tôt n'est pas un défaut, mais il faut vraiment être outillé, avoir les informations nécessaires sur comment est-ce que le corps fonctionne pour pouvoir faire l'acte, parce qu'au risque d'être blessé.
Monsieur Boileau, en tant que membre d'une association, pensez-vous que les jeunes sont suffisamment informés avant leur premier rapport sexuel?
À cette question, je dirais non. Donc, d'autant plus que nous sommes dans une société où le sexe est tabou, où l'éducation sexuelle n'existe presque pas, il y a peu de structures qui se prêtent à cela. Donc, les jeunes sont informés, mais pas suffisamment informés. puisqu'il y a plusieurs créneaux pour avoir accès à l'information. Il y a la télé, il y a la radio, il y a les journaux. Mais bref, mais quelle qualité d'information on leur donne? C'est là toute la question. Sinon, bon, dans notre société, s'ils sont suffisamment informés, comment peut-on assister vraiment à des grossesses précoces, à ces maternités précoces, à l'infection au VIH-SIDA dans le milieu jeune? Donc ça veut dire qu'il a quelque part, il a une information, ce sont des informations qui ont fait défaut.
Moi, je pense que non, on n'est pas du tout informé. Parce que maintenant, c'est très difficile pour les parents de s'asseoir et de dire à leurs enfants, le sexe c'est comme ça, ton corps il a des changements. Surtout dans le contexte malien, en tant que cas personnel, je ne l'ai pas eu. Donc j'ai vraiment pas eu d'informations à cet âge-là sur ces questions-là. Et si on n'a pas d'informations, c'est vraiment difficile. Ce sont des questions taboues. Il y a la honte de la part des parents. Et puis, ils disent que s'ils t'informent, c'est pour t'inciter à le faire. Pour eux, c'est ça, en fait. Et ils oublient ou bien ils ne le font vraiment pas. Voilà.
Et vous, Fousséni?
Effectivement, nous sommes dans une société conservatrice, comme je l'ai dit, de tradition, et certains garde-fous qui existaient ou qui informaient le jeune n'existent plus. À savoir les séances qui réunissaient avec les grands-mères, avec les tantes ou avec les oncles, ces cadres-là ont disparu. Donc, du coup, nous sommes réduits à cette famille-là où l'information à la sexualité n'est pas vraiment accessible, d'abord en famille. Au-delà de ça aussi, à l'école aussi, on n'est pas suffisamment outillé sur ces questions de sexualité. Et en plus de ça, comme il a dit, aujourd'hui, avec l'avenir des nouvelles technologies, les jeunes ont accès à n'importe quelle information. Donc, lorsque l'information n'est pas assez claire ou ne vient pas d'une bonne source, ça peut aussi causer beaucoup de problèmes. Donc, dans notre société, on peut dire que l'accès à l'information sur la sexualité est très difficile.
Alors, Monsieur Balou, quel genre d'information pensez-vous que ces jeunes devraient avoir et pourquoi?
Moi, je pense que ma consoeur Aïcha l'a dit d'abord, il faut apprendre les jeunes à connaître d'abord leur corps, les fonctions et les fonctionnements. Apprendre les jeunes à connaître leur corps, les organes génitaux mâles et féminins, leurs fonctions et leurs fonctionnements, en un premier temps. Parce qu'il faut savoir qui suis-je et comment je fonctionne. En un deuxième temps, il faut apprendre aux jeunes également les risques qu'ils peuvent encourir en faisant les rapports sexuels. Permettez-moi de revenir en arrière. Donc, la sexualité, elle est motivée pendant l'adolescence. L'adolescence, elle est plutôt caractérisée par l'apparition de caractères sexuels secondaires. Le jeune homme ou la jeune fille pense que vraiment, il ou elle arrive à la maturité, alors que ce n'est pas évident. Il faut l'apprendre qu'en faisant les rapports sexuels, tu pourras engrosser ou tu pourras tomber enceinte. En conséquence, tes études pourront se faire écourter et vraiment, tu n'es pas physiologiquement, ton corps n'est pas prêt à supporter un enfant.
Aïssa, ce sont ces genres d'informations que vous voulez bien les avoir?
Oui, ce serait bien de connaître d'abord comment est-ce que le corps fonctionne. Et avant cela, il y a des changements. Si on peut avoir aussi les causes de ces changements-là. Par exemple, chez la fille, il y a le sein qui est là, on a l'apparition des premières règles. Tel que chez le garçon, il y a les poils qui sont là, la voix devient grave et tout. Il commence même à avoir des boutons. Ça, des fois, tu te demandes, mais c'est quoi ça et tout? Qu'est-ce qui m'arrive et tout? Mais si tu n'as pas d'informations, c'est vraiment difficile. D'abord sur le changement du corps et également sur ce que ça pourrait t'amener en termes de changements sur la grossesse et tout. Si tu avances, ce qui peut t'arriver. Et tout. Il faut vraiment avoir les informations aussi positives que négatives. C'est important.
Et vous, Fousséni?
Le pourquoi est très important, mais il faut que les jeunes soient initiés à l'éducation sexuelle. Ceci est très important. Et dans un cadre global, même je dirais qu'ils doivent avoir l'information sur la santé, la reproduction en général. Donc, comme les autres l'ont dit, ça englobe tout. En ce moment, ils pourront voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de l'acte qu'ils vont poser et ils seront suffisamment outillés pour un peu aller prospecter ce terrain. Sinon, quand ils n'ont pas l'information, comme je l'ai dit, ils encourent beaucoup de dangers.
Monsieur Balou, tout à l'heure, vous venez de dire que les jeunes doivent avoir l'accès à l'information sur la santé sexuelle, mais généralement, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Qu'en dites-vous?
Merci. Donc, je pense que notre émission a pour but d'éduquer à la sexualité et non d'inviter les jeunes à faire la sexualité. Donc, nous sommes des éducateurs, donc que notre auditoire les sache. Donc, concernant cette question...
Les obstacles.
Les obstacles liés à l'accès à l'information. Il y a d'abord la pudeur. Il y a la honte d'aller à l'information. En allant à l'information, est-ce que je ne vais pas paraître ridicule? est-ce que je ne vais pas paraître comme vraiment une personne dévergondée? Non, il faut aller à l'information, savoir ce que c'est que la sexualité. Quels sont les dangers que je cours en faisant la sexualité? Ou bien quels sont les bénéfices que je peux tirer en faisant l'acte sexuel? Donc il faudra avoir toutes les informations nécessaires avant de t'y mettre là-dedans. Là-dessus, je pense que les adultes et l'école surtout ont une responsabilité très importante pour éduquer les jeunes. Il faudra leur donner l'information vraie et juste concernant la sexualité.
Mais qu'est-ce qui bloque tout ça là?
Ce qui bloque, c'est qu'il y a un mur, socialement il y a un mur entre les parents et les enfants, entre les adultes et les jeunes et les adolescents. Il y a ces murs, donc ce qui empêche la communication. Donc il faudra que nous acceptons de briser la glace, que adultes acceptent de s'ouvrir aux jeunes et que les jeunes n'aient plus la prudence de s'adresser aux adultes. Qu'à l'école, qu'il y ait vraiment des modules, un curriculum qui puisse dispenser aux enfants des cours, des connaissances sur l'éducation à la vie sexuelle.
Et ça, vous partagez cet avis?
Oui, je partage son avis. Et pour moi aussi, l'obstacle qui est aussi réel qui est là, c'est que les parents se donnent un peu une image de leur éducation. Par exemple, ils se disent que mon père ne m'a pas dit ça, ma mère ne m'a pas parlé de ça, donc moi, pourquoi j'en parlerai à mon enfant? Il faut vraiment que les parents sortent de ce carcan et qu'ils se disent que maintenant, c'est le monde a évolué. Les jeunes cherchent par eux-mêmes. Si les parents ne leur donnent pas la bonne information, ils vont prendre des informations.
Mais pourquoi
erronées.
Les parents ne donnent pas la bonne information, surtout par rapport à la sexualité?
Moi c'est surtout le social, toujours. Genre, on se dit, si je parle de ça à mon enfant, il ne me respectera pas, il va aller vers ça et tout. Et vraiment, la honte. Et des fois, je me dis, c'est un manque d'information aussi à leur niveau. Ça peut être ça. Sûrement qu'eux n'ont pas aussi la bonne information.
Et Fousseni, tu es confronté à ce genre de...
Oui, comme mes deux prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a effectivement les barrières sociaux qui sont là, qui empêchent les jeunes d'avoir accès à l'information, notamment le fait que la sexualité soit un tabou dans notre société, le fait que parfois même les parents n'ont pas les mots justes pour aborder cette question. Et au-delà aussi, je me dis qu'il n'y a pas aussi de centres jeunes qui sont aussi nombreux sur le territoire dont les jeunes peuvent avoir accès. Vous allez voir que nous sommes dans une capitale urbaine, nous sommes à Bamako. Peut-être qu'il y a des centres qui existent, des centres jeunes où on peut avoir accès à l'éducation sexuelle. Ces centres-là n'existent pas partout. Et quand tu pars dans les fins fonds du Mali, tu vas voir que ces centres n'existent pas. Il n'y a pas de répondants dans des ASACO ou des centres de santé qui pourront répondre. Et l'école aussi ne répond pas à ces besoins-là. Certes, nous avons des leçons spécifiques sur la biologie qui nous enseignent certains caractères sur la santé de la reproduction, mais il n'y a pas spécifiquement des modules sur la santé de la reproduction, sur la sexualité en général. Et ceci aussi est vraiment une grande barrière pour qui évite les jeunes à ne pas avoir l'information sur la sexualité.
Puisque l'information à l'éducation sexuelle s'avère une nécessité, qui selon vous est le mieux placé pour les informer? On va commencer par vous, M. Balot.
L'éducation commence d'abord par la famille, les parents. Les parents doivent avoir ce courage, enfin, cette responsabilité parentale d'éduquer les enfants à la sexualité. Éduquer à la sexualité n'est pas dire apprendre son enfant à pratiquer la sexualité, non. À mieux se comporter devant une situation qui l'amènera un jour à faire un acte sexuel. Ensuite, l'école. J'insiste là-dessus, l'école. L'école doit former pour la vie. L'école doit former les citoyens de demain. Un citoyen est responsable de ses actes. Il faudra multiplier, comme le disait Diop, les structures adaptées aux besoins des jeunes. Lorsqu'un jeune s'adresse à un autre jeune sur la sexualité, je pense que ça passe. Ou même si un jeune sait qu'en allant dans cet endroit qui est plus démocrate pour moi, donc je peux avoir accès facilement à l'information sans avoir honte de qui que ce soit, je pense que c'est une très bonne chose. Et même dans les médias, cette émission, vraiment, elle est la bienvenue. À la télévision publique, qu'on puisse insister des débats, des émissions qui cultivent cette éducation-là. Je pense que vraiment, ce serait vraiment quelque chose de salutaire et les gens vont pouvoir apprendre vite en ce qui concerne l'éducation à la sexualité.
Fousseni Diop.
La famille est d'abord le premier acteur, selon moi, pour informer le jeune sur la sexualité. Et quand on quitte la famille, très généralement, l'enfant se retrouve automatiquement à l'école. et ils passent beaucoup de temps là-bas aussi. Et je me dis que l'école aussi doit être un cadre pour informer le jeune sur la sexualité. Et en plus de cela, je me dis que la père-éducation aussi est vraiment un facteur qui peut aider les jeunes à avoir l'accès à l'information. Le fait que ces jeunes qui sont formés dans ces centres adaptés puissent aussi à leur tour, dans leur communauté, passer l'information à leur père, faire des conférences, faire des causes et débats à l'endroit de ces mêmes cibles-là qui peuvent aussi aider les jeunes à avoir l'information à la sexualité.
Aïssa.
Oui, moi je pense qu'il faut reconnaître que les parents ont démissionné de leur rôle. Ils n'ont plus le temps, ils travaillent beaucoup pour l'argent. Et ce que moi je dirais, c'est que d'abord, il faut qu'on apprenne ça à l'école, vraiment. Parce que l'enfant passe le plus clair de son temps à l'école. Le matin, le papa va aller descendre à l'école, il n'est là que le soir. Le soir, il revient très fatigué, il dort. Et c'est souvent aussi pareil pour la mère. Il faut qu'on initie ça d'abord à l'école, comme les cours d'éducation civique. Et vraiment, comme ça, l'enfant pourra vraiment apprendre. La famille peut venir en seconde position, mais d'abord, c'est important d'insérer un module sur ça à l'école.
Fousseni Diop, à quel âge idéalement les jeunes devraient-ils avoir accès à l'information?
Depuis l'âge zéro, la sexualité commence très tôt et l'information quand même doit être synthétisée et donnée à un certain niveau. On ne va pas dire la même chose à un enfant de 18 ans qu'à un enfant de 5 ans, mais il faut le faire progressivement. Alors, comme je l'ai dit ici, cela est le cas, il faut que la personne qui donne l'information doit être suffisamment lui aussi formée, voir ses capacités renforcées, ou peut-être le parent qui le fait aussi doit avoir suffisamment d'informations à ce niveau pour ne pas vraiment faire l'effet contraire. Parce que quand l'information est donnée que ce n'est pas de la bonne qualité ou ce n'est pas adapté aux cibles, ça peut créer d'autres problèmes. Donc du coup, l'information commence depuis 0-1 et jusqu'à l'évolution, jusqu'à la maturité. On ne cesse jamais d'avoir l'information.
Et ça, vous êtes du même avis?
Oui, je suis du même avis. Pour moi, ça dépend de l'âge. Quand l'enfant a 15 ans, il y a des informations qui peuvent lui être données selon son âge, son évolution psychologique et son développement personnel. Ça doit aller concernant cela par étape, étape par étape. Voilà.
Et vous, M. Balou?
Tout à fait. Selon que l'on soit à l'école ou en famille, bien que ce ne soit pas formel, l'éducation en famille aussi distend des modules. On ne dit pas la même chose à un enfant qui a 5 ans qu'à celle qui a 18 ans.
Évidemment.
Donc, je prends le cas de figure. Donc, à un enfant, on lui dit, mais il faut t'habiller comme ça pour ne pas exposer ta nudité. Mais à une fille qui a 18 ans, donc on va lui dire vraiment de se comporter comme ça pour éviter de se faire avoir. Donc, c'est juste un exemple. Donc, selon l'âge de l'enfant, on doit adapter le message. Voilà, le message à faire passer. Donc, je pense, comme le disait Foutine, à zéro âge, on doit commencer cette éducation-là.
Mais il y a une façon de dire quand même.
Tout à fait. Donc,
dans un langage clair.
Dans un langage adapté à notre contexte socio-culturel.
Oui.
Dans un langage, je pense que en famille, nos grands-parents n'ont pas été à l'école, mais ils avaient leur école. Ils avaient leur école. Il y avait un langage qu'on disait aux enfants de pouvoir bien se comporter dans la rue, en famille. Quand vous êtes entre filles et garçons, donc il y a des comportements qu'il faille avoir. Donc je pense que vraiment on nous éduquait ça. Et cela doit être maintenu et perpétué.
Chers auditeurs, vous suivez toujours votre émission. Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes. Et notre thème du jour porte sur les premiers rapports sexuels. Les jeunes ont parlé avec le cœur, mais aussi avec la raison. Ils sont avec nous pour faire entendre leur voix. Au regard des informations fournies, nous savons que le besoin d'être informé est plus que jamais présent. Alors nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste intervenant sur ces questions pour nous apporter plus d'éclairage. Mesdames et messieurs, votre rubrique « Éclairage d'un spécialiste » avec M. Namori Traoré, spécialiste en santé de la reproduction à Maristop International.
Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'avec les recherches, les études menées par l'Organisation mondiale de la santé, Il faut reconnaître que la spécificité des jeunes et adolescents doivent se démarquer de plusieurs secteurs. C'est ce qui dénote vraiment l'importance d'aller à l'élaboration des programmes spécifiques qu'on doit enseigner en milieu scolaire pour les jeunes et tenir compte aussi, comme on le dit, au niveau d'enseignement. Chaque niveau d'enseignement doit avoir son programme spécifique et son contenu spécifique en l'endroit de ces jeunes-là.
Quelles conditions doivent être réunies pour que les premiers rapports sexuels se déroulent bien?
Alors, en termes de conditions par rapport à cette question, il faut reconnaître que l'offre de services est vraiment importante. Quand on parle de l'offre de services, on fait allusion à l'information. Parce que dans notre pays aujourd'hui, vous le savez, les questions de sexualité, c'est des sujets tabous. Donc, ça veut dire que l'information ne circule pas trop entre parents et enfants. Alors, le milieu scolaire est un cadre idéal pour pouvoir initier les enfants à cette éducation sexuelle à travers les informations. Quel genre d'informations? Des informations adaptées aux besoins des jeunes et leur faire accompagner aussi par les pères éducateurs qu'on forme aussi par plusieurs ONG. Aujourd'hui, c'est lancé dans ce domaine-là. Et donc, ils forment des jeunes qui sont appelés des pères éducateurs qui donnent des messages aux autres pères pour pouvoir, éviter les informations erronées pour pouvoir éviter à ce que ces jeunes-là puissent tomber dans des difficultés liées à leur santé sexuelle et reproductive.
Ok, monsieur, voyez-vous une évolution dans la prise en charge des besoins des jeunes sur la question? Si oui, qu'est-ce qui vous semble positif dans cette évolution?
Alors, ce qui me semble positif dans cette évolution, c'est surtout tout ce qu'on mène dans les espaces scolaires en termes d'information, en termes de sensibilisation, en termes de prise en charge en milieu scolaire. Donc, je pense que ça, ce sont des actions qui sont vraiment positives aujourd'hui. Et je dirais aussi au niveau national, le fait qu'on dispose des programmes des politiques à l'endroit des jeunes et adolescents, ça c'est vraiment des acquis qu'il faut vraiment consolider.
Alors en matière d'information des jeunes sur la sexualité, y a-t-il des politiques et des programmes qui ont fait leur preuve? Lesquels?
Oui, je dirais que il y a des politiques et programmes qui ont fait leur preuve. Au niveau de la Direction nationale de la santé, nous avions élaboré des manuels de procédure, des manuels politiques à l'endroit des jeunes adolescents. On vient tout juste de terminer aussi avec un plan d'action multisectoriel qui est en train de faire ses preuves, parce que ça a été même annoncé. Ce plan d'action multisectoriel a été annoncé lors du sommet Afrique-France par la première dame, qui est aujourd'hui une fierté pour nous, parce qu'on veut vraiment impliquer l'ensemble des secteurs, conjuguer les efforts de l'ensemble des secteurs intervenant dans ce domaine-là ou qui ont en charge des questions en rapport avec les jeunes et adolescents pour qu'ensemble qu'on puisse vraiment gagner le pari et que tout le monde apporte sa contribution à la construction de l'édifice qui sont vraiment les questions des jeunes et adolescents au Mali.
Merci M. Namori pour ces éclairages. Nous allons à présent parler du futur, de votre futur. Vous serez peut-être parent un jour. Comment appréhendez-vous cela? Allez-vous perpétuer cette tradition, à savoir ne pas parler de sexualité avec vos enfants, et pourquoi? Nous allons commencer par Aïssa Traoré.
Oui, moi d'abord, avec l'expérience que j'ai reçue jusque-là, je pense que je serai la meilleure amie de ma fille aussi bien que de mon garçon.
Est-ce à dire que vous allez parler de l'éducation sexuelle à vos enfants comme on le souhaite?
Absolument. je vais initier avec eux des cadres d'échange réguliers, même s'il faut que chaque mois je les demande sur comment est-ce que ça avance, s'ils ont eu des changements, qu'est-ce qu'ils veulent savoir sur la vie, tout ça. Parce que des fois, il se peut que les enfants aient honte même de parler. En tant que parent, il y a des techniques qu'on peut développer avec eux. Parce que ton enfant, tu le connais. Dès qu'il y a un changement qui s'opère en lui ou bien qu'il a des soucis, tu peux le sentir. Il y a l'instant aussi qui est là. Je pense qu'il faut créer ces cadres-là, échanger régulièrement avec eux pour éviter des désagréments à l'avenir.
Et vous, M. Diop, vous allez faire la même chose qu'Aïssa?
Effectivement, j'ai la chance d'être père-éducateur, d'avoir reçu des formations thématiques sur ces questions, à savoir la santé sexuelle et reproductive et même la santé de la reproduction en général. Et ce sera un devoir pour moi et une obligation. Parce que les dangers ou peut-être les erreurs auxquelles j'ai été buté dans la vie, je n'aimerais pas que mes enfants aussi subissent ça. Donc je vais les inviter à avoir de bons comportements en leur partageant l'information qui va les servir à être des hommes ou des femmes plus tard responsables qui auront une vie saine et responsable surtout dans le domaine de la sexualité.
Monsieur Boileau, on sait que vous êtes membre d'une association et puis vous êtes parent. Est-ce qu'il vous est arrivé de parler à vos enfants de l'éducation sexuelle? Si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment ça s'est passé?
Oui, je pense que de nos jours, tout parent doit être ami de ses enfants. Et l'attitude du père ou de la mère favorise cela. Donc soyons beaucoup plus ouverts, plus disponibles avec nos enfants, quels que soient les sujets. Je vais parler de mon expérience personnelle.
Mm-hmm.
Ma fille, lorsqu'elle a vu ses règles, c'est à moi d'abord qu'elle a parlé. Un bon matin, avant de partir à l'école, elle a dit « Papa, il y a du sang qui coule entre mes jambes. »
Et pourquoi vous passez à maman?
Parce que je suis très ouvert avec elle. Je l'avais dit à l'avance, les manifestations de la puberté, et que si ces jours arrivaient, elle devait nous informer. Je lui ai dit, d'accord, va voir ta mère, elle va te conseiller comment te rendre propre. À mon retour de l'école, je voulais lui parler, elle m'a dit non, maman m'a tout dit, j'ai dit non. En tant que père, je dois te donner des conseils. Je lui ai dit que ce qui t'arrive arrive à toute femme normale. Maintenant, sache te comporter. Si tu fais un rapport sexuel à cet âge-là, bien que tu aies 13 ans, tu peux tomber enceinte. Et quand tu tombes enceinte, tes études seront compromises. Et deuxièmement, comment tu vas apparaître en société? Quel regard les autres auront sur toi? Donc, si un ami te dit qu'il t'aime, ne dis pas non. Viens me voir, je vais t'aider à résoudre ces problèmes-là. C'est comme ça que je l'ai parlé.
Et est-ce que cette information a porté fruit?
Tout à fait. Pour preuve, les jours où elle a eu un petit copain, elle est venue me voir. Donc, elle m'a dit, moi, je lui ai dit que, OK, dis aux copains de venir en famille. Le jeune homme, il est venu, donc je les ai fait asseoir tous les deux. J'ai dit, OK, vous êtes tous deux mes enfants. Là où vous êtes, votre priorité doit être l'école. Je ne vous condamne pas. Je ne condamne pas le fait d'aimer quelqu'un. Ça arrive à tous les âges. Mais sachez que vous n'avez pas la majorité pour aller au-delà de ça. Travaillez à l'école, soyez de bons amis, aimez-vous. Mais juste, arrêtez-vous là, travaillez bien à l'école et après le bac, vous pouvez décider ce que vous voulez.
Voilà. Et ce message a été perçu?
Très, très clair. Donc, il est fréquent chez moi. Donc, s'ils doivent aller à une invitation quelconque, à 5 jours ou une semaine d'avance, ils viennent me prendre la permission.
Et vous êtes prêt toujours à continuer dans ce sens, à
tout
donner des informations?
Mieux vaut être ami des enfants, leur donner des informations que d'être un jour surpris. Oui, qu'il d'être un jour surpris, vraiment d'une nouvelle très, très désagréable.
Ok, merci pour toutes ces informations. Dans la société, des hommes et des femmes prennent position pour changer la donne. Comme vous, ils et elles sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Et c'est aujourd'hui, maintenant qu'il faut le faire et non demain ou après-demain. En parler, c'est déjà bien. Donner sa voix, s'engager, c'est encore mieux. Écoutons parole de champion.
Je suis le docteur Sal Badjibril, je suis médecin au groupe Pivot Santé et Population. Et actuellement, je suis coordinateur du projet de renforcement des capacités des jeunes et adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive. Pourquoi mon engagement en faveur des droits sexuels et reproductifs des jeunes et adolescents? De par mes expériences professionnelles que j'ai eues à effectuer dans le cadre de mon travail, ces expériences m'ont amené à me rendre compte qu'un gap important existe en matière de satisfaction des droits sexuels et reproductifs des jeunes et adolescents. Pourquoi? Nous avons une population majoritaire très jeune. Nous avons des femmes qui entrent en union très jeunes et qui sont mères très jeunes. Partant de ce constat, nous nous rendons compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui commencent l'activité sexuelle très jeune, sans pour autant avoir toutes les informations nécessaires. C'est vrai que l'État fait énormément, mais les moyens sont limités. Mais d'autre part, et pourtant le besoin est là, il faudra assainir l'environnement, il faudra renforcer le plateau et surtout offrir des services de qualité. Parce que nous savons, un jeune qui bénéficie des services de qualité en termes de santé de la reproduction, c'est sûr que c'est un investissement garanti pour l'avenir. Les actions que nous menons en matière de droits sexuels et reproductifs aujourd'hui pour les jeunes, il s'agit d'amener les jeunes à prendre conscience de l'état des lieux en matière de droits sexuels et reproductifs au Mali. Et quand nous parlons des jeunes, il ne s'agit pas seulement des jeunes en milieu urbain, ou les jeunes alphabétisés, ou les jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux. Il s'agit de tous ces jeunes, que ce soit du niveau formel et informel, ces jeunes en milieu rural, à prendre conscience déjà de cette situation-là, à connaître l'ensemble des services offerts en matière de droits sexuels et reproductifs au Mali, en termes de prise en charge, de services cliniques offerts, mais aussi l'environnement juridique qui leur est offert par le législateur. Il s'agit pour ces jeunes de pouvoir s'armer de tous ces éléments-là afin de réduire leur propre vulnérabilité par rapport aux risques qu'ils peuvent encourir sur la méconnaissance des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Le droit à l'information est un droit indéniable. Déjà, pour cette population, il faut que déjà la population sache exactement les besoins et les services qui sont offerts en matière de droits sexuels et reproductifs. Et aujourd'hui, nous lançons un vif appel aux parents, aux encadreurs, surtout aux professionnels aussi, à pouvoir diffuser largement les services en matière de droits sexuels jeunes. Parce qu'en fait, comme vous le savez, la plupart de ces services aussi sont méconnus par les jeunes eux-mêmes et sont méconnus par la population en général. Et force est de reconnaître que le nouveau plan stratégique jeunes 2017-2021 contribuera largement à faire cette diffusion auprès de la population en général. Mais également, nous lançons un vif appel vraiment à cette population de commencer l'éducation sexuelle des jeunes et adolescents depuis de la maison, au niveau des familles, au niveau des foyers, de discuter, de dialoguer, d'échanger, mais surtout de mieux encadrer les ados et les jeunes.
Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver plus de champions et championnes engagés dans ce domaine à travers toute la sous-région sur le site generationpf.equipop.org. Je rappelle que l'émission d'aujourd'hui portait sur la sexualité des jeunes et surtout sur les premiers rapports sexuels. Pour certains jeunes, ces premières expériences sont vécues douloureusement. Pour d'autres, elles restent synonymes de plaisir et d'épanouissement. Quoi qu'il en soit, elles ne sont pas sans risque et en la matière, il est toujours important d'être informé. Et voilà, mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Une journée entière n'aurait pas suffi pour faire le tour de la question. Merci, chers invités. Je rappelle que c'était M. Balo de l'AMSOP, Aïssa Traoré, Fousseni Diop, qui représentait les jeunes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous. Une émission qui vous a été présentée par Kadiatou Doukouré avec la complicité technique de Tidiane Diank. On se retrouve pour d'autres informations. D'ici là, prenez soin de vous.